Objectif Santé, Karen Taïeb.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Michel Odoul. Alors, il est professionnel du shiatsu et il a écrit un livre, c'est un best-seller depuis 20 ans. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Bonjour.
Bonjour Karine.
Bonjour Michel Odoul, vous êtes donc un grand professionnel du shiatsu. D'ailleurs, vous allez me raconter un peu comment, de l'école de commerce dans laquelle vous avez commencé, comment vous êtes arrivé, par quel cheminement finalement vous êtes arrivé à cette, on va dire un peu, cette médecine orientale, cette médecine chinoise, et par le biais notamment du shiatsu.
Oui, alors c'est une histoire que je peux vous faire ou brève ou longue.
Ah oui, c'est sûr,
tout va dépendre. Mais c'est vraiment une histoire, effectivement, un parcours assez atypique, ouais. Puisque je suis effectivement quelqu'un qui est diplômé subdeco, qui était cadre supérieur. Et comme tous les cadres supérieurs, eh bien, je menais une vie de fou un peu.
Ouais.
Et un ami me dit un jour, tu sais, il y a une technique qui est très intéressante à pratiquer pour se détendre et qui fait énormément de bien, qui s'appelle l'aïkido. Et l'aïkido, c'est un art martial japonais. Mmh. Je suis allé voir assister un jour à un cours, ça m'a effectivement plu. J'ai commencé à prendre des cours avec le maître japonais qui s'appelait maître Nakasano. Et il s'avérait en fait que, effectivement, non seulement je me détendais, mais que je trouvais dans cette technique très particulière, qui utilise la force de l'autre, des outils même pour le management et pour ce qui se passait dans le monde de l'entreprise. Et je me suis dit que les philosophies orientales pouvaient être intéressantes. Mmh. Et le maître d'aïkido était également un maître en shiatsu.
La différence, donc, parce que pour ceux qui connaissent
alors,
ni
l'un ni l'autre... L'aïkido est un art martial, ouais. qui a pour grande base fondamentale de ne pas s'opposer à ce que l'autre génère, mais au contraire de s'en servir pour le retourner contre lui. Très
d'accord.
Globalement. Voilà, un petit peu. C'est d'ailleurs ouais. que donc, l'autre qui cherche le plein rencontre
l'arroseur
le vide.
L'arroseur arrosé, en gros.
Voilà, c'est ça. Hein, okay. Qui est à la base de beaucoup d'arts martiaux mm-hmm. japonais. Et ensuite, le shiatsu, lui, c'est une technique corporelle. C'est une sorte d'ostéopathie orientale, si
Et là,
voulez.
On est seul, on n'est pas face à un adversaire.
Voilà, là, on travaille avec un patient ou avec un partenaire. C'est-à-dire, c'est, shiatsu, ça veut dire pression des doigts.
D'accord.
Et donc, à travers des pressions des doigts sur le corps, on va libérer des articulations, des tensions musculaires ou travailler sur des points ou des méridiens d'acupuncture.
D'accord.
C'est ça l'idée de fond. Et avec, comme globalement, soit l'état du bien-être, soit travailler sur des pathologies pouvant exister. Et donc, ce maître étant aussi maître en shiatsu, je dis à mon épouse, tiens, si on y allait un week-end, il faisait des initiations pour voir. Et donc, on s'inscrit à une initiation. Et mon épouse, à l'époque, avait mal à un genou. Et on avait consulté, rhumatologue, etc. Et la médecine avait dit à mon épouse, « Madame, vous n'avez rien. » Et donc, elle était très contente, sauf qu'elle avait mal au genou et elle boitait.
Ouais.
Et nous sommes arrivés à ce cours donc, de shiatsu, et le maître a vu mon épouse qui boitait comme cela. Il lui demande ce qui lui arrive. Donc, elle lui explique. Il l'a fait allonger, il a pris sa jambe, et il a touché un point au niveau de la cheville, pas du tout au niveau du genou.
Ouais.
Mon épouse a poussé un hurlement, et elle n'a plus jamais eu mal au genou. Et donc ce jour-là, nous avons rencontré en fait une
vous
sorte
dit,
de gifle neuronale.
Oui, mais vous avez dit quoi ? C'est de la magie ou s'il y a quelque chose de voilà de,
a,
de.
On s'est dit, il y a un paradigme, il y a
d'une
une connaissance
qu'on connaît pas.
Voilà, qui répond à des champs dans lesquels notre connaissance ne répond pas.
Mmh.
Et ça, ça a été parce que j'ai toujours été quelqu'un de curieux. Ça a été quelque chose qui m'a fasciné, donc j'ai mis le doigt, puis après la main, puis après le bras, et enfin je me suis fait entièrement happé par cette façon de comprendre la vie et le vivant.
Et là vous avez créé, donc bien sûr on résume encore un peu ce parcours,
oui.
Mais vous avez créé cet institut français du shiatsu,
oui.
Pour quelle raison ? Pour encore former d'autres personnes ?
Oui,
pour,
c'est-à-dire que c'est un cursus qui est un cursus classique, qui est que dans un premier temps on va être celui qui apprend, et une fois qu'on sera allé, non pas au bout, mais jusqu'à un certain niveau, on ressentira le besoin de transmettre. En même temps, dans ce qui est la façon dont fonctionnent les orientaux, ils adorent ce système de transmission, etc. Et est arrivé le moment où donc...
Oui, c'est un peu comme la psychanalyse, où
voilà.
On va, à force d'avoir été analysé,
on va
un
transmettre.
Moment où on se dit
voilà.
On va pour les autres.
Voilà. Et c'est ce qui m'a poussé d'abord dans un premier temps à faire des cours au niveau individuel, et puis ensuite à créer un institut de formation professionnelle.
Et alors donc, du coup, vous avez écrit ce livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », un best-seller qui est paru aux éditions Albin Michel. Ça fait plus de 20 ans que ce livre a été édité, réédité, etc. Pourquoi cet engouement, d'après vous, au niveau de la société française pour ce genre de pratiques, de livres aussi ? Qu'est-ce que les Français vont chercher ? dans cette à la fois médecine chinoise, mais ce, en particulier, voilà ce que vous leur apportez.
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, ce ne sont pas uniquement les Français, puisque ce livre est traduit aux États-Unis, en Chine, dans les deux langues de chinois complexes et simplifiées, en Turquie, en Roumanie, dans tous les pays baltes, en Espagne.
Albin Michel a bien fait de vous rencontrer, quand même.
Ce livre parle. Ouais. En fait, il y a une espèce d'universalité, ce qui m'a beaucoup étonné d'ailleurs, personnellement. Et il répond à une question qui est une question majeure dans nos sociétés, qui est la question du sens.
Ouais. Faire sens, la maladie qui fait sens.
La maladie qui fait sens et qui fait que nous ne sommes à ce moment-là plus une victime, mais quelqu'un chez qui un processus est en train de s'exprimer.
Ouais. Parce que dans tout ce que vous nous expliquez, on est toujours dans la symbolique de la maladie, contrairement à ce que les psychanalystes appellent le mal à dire, donc on a du mal à dire ce qu'on ressent. Vous, vous dites, on peut aller chercher en nous la cause, parce qu'on doit pouvoir instinctivement savoir à quoi ça correspond.
Oui, et puis en fait, déjà à partir du moment où la question émerge, quelque chose, un processus commence à se mettre en place, on réactive des processus internes qui vont relancer un système immunitaire, un système d'équilibre et de défense. Mais effectivement, à travers la manière dont le corps exprime, si on a un peu de curiosité, comme savaient le faire nos grands-mères quand elles nous disaient que si tu as mal au dos, c'est peut-être que tu en as plein le dos, si tu as un truc, c'est que peut-être que tu n'as pas digéré ce qu'on t'a dit. Ou si tu as mal à la tête, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui te prend
c'est
la tête.
C'est vrai que dans le cadre du langage, on a déjà des expressions qui nous
bon
font
sens.
Comprendre que le corps dit des choses.
Absolument, il y a un bon sens archétypique, universel, naturel, qui existe dans toutes les cultures du monde dans lesquelles on avait compris cela. C'est l'émergence d'une science glorifiante du 19e siècle qui a cru que la mécanique pouvait tout expliquer et comprendre, qui nous a fait oublier un petit peu cela. Et à travers cela, eh bien, cette incitation à réfléchir et à se poser des bonnes questions nous amène à, entre guillemets, lire notre corps comme un livre ouvert, parce que chaque zone corporelle va rentrer en résonance à la fois avec une symbolique fondamentale et en même temps en résonance avec sans doute un vécu psycho-émotionnel.
Quand vous dites « dis-moi où tu as mal », je te dirai « pourquoi est-ce que c'est suffisant ?» Parce que savoir pourquoi, c'est une chose, mais savoir comment se débarrasser de ce mal, est-ce que ça...
C'est comme en mathématiques. C'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant.
C'est
fondamental, parce que c'est un processus dans lequel de victime, on devient acteur de ce qui va être la guérison, entre guillemets. C'est-à-dire que dans la capacité à se poser les questions du sens qu'il y a derrière, on va avoir déjà des réponses sur les éventuelles nécessités à modifier des comportements, des façons d'être, des façons de vivre, des façons de penser les choses et de penser le monde. Ça n'a signifié à aucun moment que nous étions dans de la pensée magique. Ça n'a signifié à aucun moment que nous étions dans une capacité du fait qu'on va réfléchir au sens à ne pas avoir besoin de soigner le corps. Si je me casse une jambe, même si je réfléchis sur la raison, il faut se faire mettre un plâtre. Et exactement, voilà.
Oui, c'est toujours très important, surtout vous, en tout cas pour tous les praticiens qui pratiquent cette médecine chinoise, qui vient d'ailleurs, qui vient de l'Orient, qui a un caractère presque exotique. C'est toujours important de rappeler que vous n'êtes pas en opposition avec la médecine allopathique. Cette médecine, elle existe.
Absolument
et qu'elle
pas, est, bien sûr.
Elle sert. Et ça, je sais que... Pour des gens comme vous, comme d'autres, comme Jean Pélissier, qu'on a beaucoup interviewé ici, c'est important de le rappeler.
Bien sûr, c'est très important de le rappeler, et c'est quelque chose qui est ou sur lesquels il y a une ambiguïté uniquement en Occident, parce qu'en Orient, ce n'est pas du tout le cas. Le shiatsu vient du Japon. Quand vous allez au Japon, c'est la deuxième médecine officielle, mais c'est une deuxième médecine officielle qui cohabite avec la médecine allopathique telle que nous la connaissons. Je rentre là d'un voyage à Pékin où j'ai été reçu dans le cadre du plus grand hôpital de médecine traditionnelle chinoise de Pékin, qui s'appelle le Guanganmen Hospital. Il faut savoir que dans cet hôpital, tous les médecins qui sont les médecins de médecine traditionnelle chinoise sont également médecins de médecine occidentale. Ils sont capables de faire les deux diagnostics.
Ils s'en servent.
Et en fonction de la pathologie ou du besoin, ils vont choisir tel ou tel type de traitement. C'est-à-dire que quand vous allez au rez-de-chaussée où il y a tous les kiosques où on vous donne les différents médicaments, où il y a toute une partie qui est avec pour ce qu'ils appellent la western medicine, c'est-à-dire les médicaments occidentaux, et toute une partie qui concerne la pharmacopée. Donc la lutte, elle n'existe que dans certains esprits.
De moins en moins ou pas?
Je pense que ce qui fait qu'elle existe encore beaucoup et qu'il y a des rétractations, c'est des problèmes de territoire. Ce sont des luttes de territoire et des questions économiques. Mais ça bouge énormément. Vous savez, moi, dans 15 jours, j'interviens à Strasbourg dans un DU de médecine. Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup de choses.
Il y a
beaucoup de choses qui bougent et qui évoluent.
En tout cas, il y a un dialogue qui commence à à s'établir.
Métier salvateur.
Et c'est important. Oui. Parce que vous vous dites, justement, quand il y a maladie, donc les psychanalystes parlaient de mal à dire,
oui.
Mais vous parlez aussi de cette notion de perte d'équilibre. Le corps était dans une bonne harmonie, tout marchait bien, fonctionnait. En gros, il ne se faisait pas entendre,
mm-hmm.
Il était silencieux,
oui.
Et d'un coup, il y a cette perte d'équilibre qui va entraîner peut-être justement une déficience de plein de choses, quoi.
Oui, parce que nous sommes très globalement un peu autistes ou malentendants avec les moments et les nombreuses fois où la vie essaye de nous envoyer des signaux nous disant, tu sais, là, c'est peut-être pas la meilleure façon. Mm-hmm. Là, tu en fais peut-être un petit peu trop. Là, tu vas peut-être un petit peu trop vite. Là, tu devrais manger un peu moins de ça. Là, tu devrais te reposer, etc. Mm-hmm. Nous avons du mal à entendre ça parce que nous sommes un peu sursollicités, surexcités sur la satisfaction des sens,
ouais.
Et sur toute l'agitation du monde. Et nous avons du mal à laisser cet équilibre se faire dans le corps, et lui, il a besoin de temps et de phases de repos. Et lorsque nous sommes malentendants, il y a besoin que quelque chose s'exprime un peu plus fort. Vous savez, c'est un peu comme un enfant qui a l'impression qu'on ne s'occupe pas assez de lui.
Mm-hmm.
Eh bien, qu'est-ce va-t-il faire ? Il va faire des bêtises. C'est-à-dire qu'il va nous générer de l'inconfort pour nous obliger à nous occuper de lui.
Ouais.
Et notre vie, quelque chose au plus profond de nous-mêmes, a sans doute aussi cette capacité à nous solliciter de façon inconfortable pour nous obliger à nous reporter un peu d'attention.
C'est ce que vous appelez le non-respect du vivant ou pas ?
Oui, alors là, ça c'est dans un autre ouvrage,
ouais.
Où j'avais vraiment développé ça, où je m'étais un petit peu mis en colère parce que je disais, mais vous savez que nous cherchons les racines ou les causes de la maladie, nous devrions déjà réfléchir un peu sur la manière avec laquelle nous ne respectons plus le vivant, quel qu'il soit. Le vivant des animaux que nous mangeons et de la façon dont nous les élevons, le vivant des plantes dont nous nourrissons et qui ne voient plus le sol, le vivant des individus ou des enfants qui sont maltraités au quotidien, etc., etc. Tous ces éléments-là qui font que ce que l'on nous fait croire comme étant la vie n'est que de l'excitation ou de l'agitation, et qui fait qu'à un moment donné, mais le processus de vie, c'est comme quand vous mettez un barrage sur une rivière, il y a un moment donné, à la première faille possible, tout va craquer.
Alors, comment recréer justement cet équilibre qui est parfois perdu par cette surconsommation, cette surexcitation et cette disharmonie finalement dans le corps, comment on y arrive ?
Il y a deux qualités fondamentales qu'il faut essayer de travailler et développer. Un, c'est l'humilité. Nous sommes des gens qui ont été cultivés et éduqués dans la croyance que l'ego était un empereur qui savait tout et qui gérait tout, alors qu'il n'est qu'un exécutant. Et donc, cette humilité par rapport à soi-même et au vivant est quelque chose de fondamental. Et la deuxième, c'est réinstaurer de la confiance. La confiance rimant avec le terme patience. C'est-à-dire que nous sommes dans de l'éphémère et de l'instantané, nous voulons tout tout de suite, et nous ne sommes plus capables de comprendre comment les vécus, et entre autres les frustrations, sont des éléments non pas qui sont destinés à nous nuire, à nous opposer, mais à nous construire.
Alors j'ai envie de vous dire, Michel Odoul, vous me parlez un peu philosophie.
Oui.
En gros, vous parlez plus au cerveau qu'au corps. Quelque part, non ?
Et pourquoi donc ? Nous sommes tout à fait capables de comprendre que le matin, il faut se laver les dents, prendre une douche. Nous acceptons, nous comprenons tous qu'il y a un minimum d'efforts physiques éventuellement à faire pour entretenir son corps, etc. etc. Sauf qu'un corps qui est entretenu sans un esprit qui, lui, ne l'est pas.
Ouais.
Qu'est-ce que cela va donner ? Petit à petit, une distanciation et une dichotomie qui, à un moment donné, a une facture. Les anciens Grecs avaient frappé au frontispice de leur temple, mens sana in corpore sano,
ouais,
ou les anciens temples romains, etc. Nous savions, nous avons perdu tout cela.
Oui, c'est vrai. Donc il est possible pour vous de recréer cet équilibre. Donc déjà, par l'humilité et la confiance.
Oui. Et par la question du sens.
La confiance en soi, la confiance
dans la vie.
Les deux. Et donner du sens. Et quand on donne du sens, c'est-à-dire qu'on va s'écouter, on va peut-être entendre ce que nous dit ce corps.
Oui.
Et
plus que ça même. Plus que ça. C'est-à-dire donner du sens, c'est mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi je suis dans cette vie-là ? Nous sommes dans une vie dans laquelle la seule dimension qui est prise en compte, c'est l'horizontalité. C'est-à-dire la matière, la matérialité, la compétition, la lutte, l'opposition, etc., etc. Ce qui construit aussi un être, c'est la verticalité. La verticalité, c'est quoi ? C'est cette capacité de l'humain à se tenir droit. Mais se tenir droit, c'est un effort permanent parce que ça n'est pas naturel. Il y a milliers et des milliers de fibres musculaires qui travaillent en permanence pour nous maintenir droit. Et il faut que nous apprenions à nous remaintenir droit, humainement parlant. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel.
Alors, quand on se dit, se poser les questions du pourquoi j'en arrive là, pourquoi je suis dans cette situation-là, est-ce que c'est pour reprendre les fameuses expressions de langage qui disent des choses, est-ce que c'est pas la fameuse prise de tête qui risque à son tour ou qui montre qu'il y a quelque chose de l'ordre du déséquilibre? Parce que quand on se pose pas de questions non plus, ça veut dire que tout va bien.
Mais ça peut être ça, mais j'ai l'habitude de dire justement, que ce soit en conférence ou à mes élèves, que de se mettre la tête dans le sable n'a jamais empêché l'autruche de se faire bosser le derrière. Mmh. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans le déni ou dans l'ignorance des mécanismes, c'est quelque chose qui n'a jamais apporté de solution et qui n'a jamais résolu les choses. Nous sommes dans un espèce de pacte avec la vie et le vivant, mmh. qui est un pacte dans lequel notre responsabilité, c'est de l'entretenir. C'est un capital. Et la santé n'est pas un dû, c'est un devoir. C'est un devoir à soi et c'est un devoir aux autres, c'est un devoir à la société, c'est un devoir à ses enfants, parce que les enfants font ce qu'on leur montre, etc. Nous sommes dans un processus dans lequel nous avons à remettre en cause un certain nombre de croyances qui nous ont laissé penser que les choses étaient faciles, étaient dues. C'est une véritable exhortation, et être un humain est quelque chose qui est une véritable exhortation. Et c'est au-delà de la pure question philosophique, c'est-à-dire que si je me rends compte que je mange trop de sucre, il faut que je me demande pourquoi je mange trop de sucre. Je sais de toute façon que la facture, elle arrivera à un moment donné. Ce n'est pas parce que je vais vouloir l'éviter dans le moment que ça va régler les choses.
Et alors vous,
peut-être que j'ai besoin de douceur.
Ouais. Voilà, c'est ce que vous dites à vos patients qui viennent vous consulter.
Bien sûr, parce que les patients qui viennent dans des approches comme les nôtres sont des patients qui sont en recherche et en démarche et qui attendent ça, même si ça ne leur est pas confortable à entendre parfois. Et notre devoir est d'amener de l'éclairage à la personne après de faire les choix qui lui conviennent.
Vous dites qu'il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qu'il se passe et qu'est-ce qui ne va pas? Pour vous, c'est vraiment essentiel de se poser la question, de toujours se ramener à la question du pourquoi j'en arrive là.
Oui, bien sûr. Alors, toute chose étant égale par ailleurs, comme on dit là aussi en mathématiques, c'est-à-dire que si je me cogne un doigt de pied ou que je me coupe l'index en pelant un oignon,
évidemment,
je ne vais pas m'arrêter pour me dire mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il dans ma vie? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? C'est à partir du moment où je suis concerné par quelque chose dont l'inconfort, l'impact est intense ou dur.
Qui dure
si je me réveille une fois la nuit, je n'ai pas besoin de me poser de questions. Si pendant 8-10 jours de suite, toutes les nuits, à la même heure, je me réveille, là, il faut que je m'interroge sur qu'est-ce qui se passe. Je suis sans doute dans une phase de vie dans laquelle je vis quelque chose qui m'interpelle.
On va se retrouver dans un petit instant après cette petite pause. Je suis en compagnie de Michel Odoul, qui est un grand professionnel du shiatsu, et puis qui a écrit ce best-seller « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » paru chez Albin Michel. C'est un livre que vous avez écrit il y a 20 ans, ou plus de 20 ans, et qui dure encore. On va se retrouver juste après cette petite pause. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez nous appeler au 01 42 17 10 11.
Te souviens-tu de l'ivresse, de nos envolées soudaines? Reconnais-tu mon adresse, nos larmes au bord de la Seine? Allons voir ce qui reste de nos apnées sous les draps. Cachons-les sous la veste, toutes ces morsures qui ne s'oublient pas. Toutes ces heures passées Laisse-moi partir avec toi en exil. Mon amour, je baisse les bras. En péril, je me sens si loin de toi. Notre idylle.
Et Jennifer sur RCJ, et on est en compagnie de Michel Odoul. On parle avec lui de son livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Et d'ailleurs, vous avez fait une autre version « Dis-moi quand tu as mal, je te dirai pourquoi ». Parce qu'il y a aussi la question
du temps,
de la temporalité.
Il y a des cycles dans la vie d'un être humain, qu'ils soient des cycles physiologiques ou des cycles symboliques. Et ce sont des cycles qui sont communs et universels et transverses à toutes les traditions. Prenons un des cycles traditionnels connus dans toutes les traditions, qui est celui des 12 ans. Mm-hmm. 12 ans est un moment précis dans plein de références et de cultures, etc. Il est le moment où un enfant commence à rentrer vers l'âge de l'adulte.
Ouais.
Il est dans ces prémices-là. Ce sont donc dans beaucoup de sociétés des moments où on fait faire des initiations, entre guillemets, quelle que soit la forme que l'on donne à cela. Ce sont donc des rites de passage. Et ces rites de passage correspondent à des grandes figures mythologiques que l'on connaît à travers la mythologie gréco-romaine, qui sont des cycles comme Uranus, qui est un cycle de vie, et qui se sépare en quatre cadrans, qui sont 21, 42, 63, 84, qui sont des âges dans lesquels il y a des coups de semonce particulièrement forts qui
et
peuvent arriver.
Il faut y faire attention à ce moment-là.
Il faut, voilà, absolument. Nous sommes dans les stades des défis uraniens. Il y a les cycles des 12 ans, les cycles des 5 ou des 7 ans pour les couples. Il y a un certain nombre de choses comme ça et qui rentrent en résonance, pas uniquement avec du philosophique et du mythologique, mais avec aussi des cycles de renouvellement cellulaire. C'est-à-dire que dans notre corps, il y a des périodicités pour les renouvellements de cellules qui vont de la semaine jusqu'à des 80 ans, comme les cellules du cerveau et du cœur, donc qui correspondent au cycle uranien. Des cellules osseuses, des cellules hépatiques, un organe qui se renouvelle tous les ans, enfin, etc. Donc, ces cycles de renouvellement correspondent à des phases dans lesquelles il y a des espèces de bilans où l'individu est confronté à quelque chose et où une espèce de question inconsciente se pose, c'est « qu'as-tu fait de ta vie ?»
Ouais. Et ça, parfois, c'est douloureux.
Oui.
On va prendre quelqu'un en ligne, vous pouvez mettre votre casque, oui. Michel Odoul. Bonjour, on vous écoute.
Allô, bonjour, c'est Corinne Taillet.
Oui, alors donc, on vous écoute, oui.
Oui, bonjour, ça serait pour poser une question au docteur Michel Odoul, s'il vous plaît.
Odoul.
Oui.
Alors, excusez-moi.
Je ne suis pas médecin, hein.
Oui, c'est ça.
Oui, d'accord. Je voulais vous demander, poser la question.
Oui.
J'ai fait pas mal d'examens, et je suis toujours essoufflée, et tout le temps, je manque de souffle, et j'arrive pas à respirer.
Oui.
On m'a dit, j'ai fait il y a pas longtemps à l'hôpital Saint-Antoine un examen de poumon, et ils m'ont dit que c'était beaucoup le stress.
Oui, vous savez, à partir du moment où vous avez fait les examens qui conviennent et que sur le plan organique, il n'y a pas de pathologies qui ont été détectées,
oui.
Il y a de fortes chances effectivement pour que ça soit un phénomène lié à, on va dire, à des vécus psycho-émotionnels dont le stress fait partie. Il faut savoir que dans le corps, nous avons un système nerveux particulier qui s'appelle le système neurovégétatif et qui est un système nerveux qui gère toutes les fonctions organiques involontaires et inconscientes. Il a un nerf majeur qui s'appelle le nerf pneumogastrique. On voit donc déjà bien que le poumon est en cause avec ça. Et que lorsqu'on est en état de stress, eh bien, on s'en rend pas compte, mais inconsciemment, on a la respiration qui monte, ce qu'on appelle au niveau claviculaire. On a le diaphragme qui se tend, voire même parfois on se met en apnée. Ça génère en compensation en plus une posture qui fait qu'on rentre les poumons vers l'avant, le dos se met très légèrement en position ronde, et ça génère une compression au niveau des 5e et 6e vertèbres dorsales qui sont celles qui, par lesquelles justement émergent, on va dire, des câblages nerveux qui vont vers notamment le système respiratoire. Donc le conseil qu'il y a à vous donner, en dehors de cette technique très basique et très simple qui est que chaque fois que vous êtes en situation de stress, Asseyez-vous, posez les pieds bien à plat, faites 5 respirations profondes en soufflant bien dans le ventre. Ça va déjà générer un premier état de détente. Et sinon, sur le plan global, si vous êtes dans une phase où vous sentez que c'est en permanence là, c'est d'aller consulter un praticien en shiatsu ou un ostéopathe. Il fera un travail à la fois au niveau dorsal et au niveau du plexus solaire et du diaphragme pour le libérer. Et vous verrez qu'à ce moment-là, votre respiration se redétendra. Mais que la clé majeure, bien sûr, pour vous, c'est d'apprendre à gérer vos stress. Donc, servez-vous beaucoup, beaucoup de la respiration.
Voilà, j'espère
qu'on... mes pieds à plat et je respire très fort.
Voilà.
Pas très fort, mais en profondeur.
En profondeur.
Et
hein.
Lentement.
En profondeur. Ouais. Voilà, vous mettez les pieds à plat sur le sol. Si vous êtes devant une table, les mains à plat sur la table. Vous mettez votre dos droit. Vous inspirez tout doucement. Puis vous expirez en soufflant dans votre ventre, en laissant votre ventre se gonfler. Vous faites ça 5 fois de suite. Et vous allez voir comment ça va vous faire baisser la pression, vous allez être très très étonné.
Voilà, en tout cas surtout que vous soyez bien entouré d'un point de vue médical pour savoir si
absolument.
Cet essoufflement ne vient pas d'autre chose, mais si les pneumologues que vous avez vus ont trouvé qu'il n'y avait pas de raison pulmonaire précise, bon, il faut quand même se poser des questions d'un point de vue médical, mais effectivement, c'est cette respiration de ne peut faire que du bien de toute façon.
Ne peut faire que du bien, et c'est ce que je disais à partir du moment où les bilans médicaux ont été faits. Sur le plan psycho-émotionnel, en revanche, je pense que la question majeure qu'il faut vous poser, c'est quels sont les vécus qui vous insécurisent sur votre territoire, quelles sont les agressions que vous ressentez venant du monde extérieur.
Voilà. Donc se poser aussi toutes les questions qui sont liées peut-être à ce stress, d'où vient-il, et le faire parler quelque part, lui trouver une origine, voilà.
Oui, parce que c'est un processus naturel. Les grands champions automobiles vous disent que pendant un tour complet de circuit, ils ne respirent que dans les lignes droites. Tout le reste, parce que la tension est telle, ils sont en apnée. Si nous sommes un tout petit peu à l'écoute de nous-mêmes, quand nous sommes tendus et stressés, que nous arrêtons, nous portons notre attention, nous allons nous rendre compte que nous ne respirons plus correctement.
Ouais.
C'est un fait majeur, hein, ce fait de la respiration, et c'est un des premiers faits qui est en lien avec le psycho-émotionnel.
Alors 01 42 10 à 10 11, si vous voulez poser des questions à mon invité Michel Odoul, on parle avec lui justement de faire parler ce corps, parfois qu'il y a des choses à nous dire, des choses importantes et qu'on n'écoute pas forcément. Vous le racontez, vous, dans votre livre, ces personnes qui vous dites, mais je le savais, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû monter sur l'échelle et je suis tombée. Finalement, on sait des choses, on a cette intuition et parfois on ne s'écoute pas.
Mais oui, quelles que soient les raisons de cela, une des raisons principales, c'est celle que j'évoquais au début de l'émission, c'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés de prévalence du moi et de l'ego, nous sommes dans des sociétés dans lesquelles...
Je suis supérieure à moi-même, quelque part.
Voilà, c'est ça, hein, j'ai un pan de moi-même. Et le problème de l'ego, c'est que lui, il a un rapport au vivant et à la vie qui est très basique, c'est tort, raison, vrai, faux, oui, non, etc. Donc qui est très, très dual. Et éventuellement accepter que quand il a décidé de faire quelque chose, il vaut mieux qu'il évite de le faire, va être inacceptable pour lui. Et donc, il va insister, il va continuer. Pourtant, à l'intérieur de nous, nous avons des mécanismes, nous avons une sensibilité, nous avons une intuition, nous avons un esprit, nous avons une âme, nous avons un maître intérieur, quel que soit le mot que l'on va donner, le nom qu'on va donner à ça, qui nous envoie pourtant des signaux. Signaux que nous avons trop, trop souvent tendance à vouloir faire taire.
Il y a quelque chose aussi qui fait taire ces signaux, vous le dites aussi, c'est que vous dites le traitement qui va soulager une douleur, qui va traiter une maladie, ne doit pas anesthésier
la
conscience de la maladie.
Absolument, absolument, ouais. Parce que la conscience de l'individu est quelque chose de majeur, puisque c'est ça qui conduit la vie dans les différentes parties du corps. Si on se sert de la médication pour anesthésier cette conscience, on fait disparaître le signal de la douleur, mais on ne rétablit pas le fond,
ouais.
Et donc les désagréments continuent à fonctionner, à exister. J'évoquais ce DU de médecine dans lequel je vais intervenir. Les médecins aujourd'hui sont en train de s'approprier, d'apprendre des techniques qui s'appellent le mindfulness, c'est-à-dire la manière avec laquelle la méditation peut devenir un outil thérapeutique extrêmement puissant.
C'est de plus en plus, on en parle de plus en plus, cette
c'est
méditation.
Suite aux, voilà, hein. C'est suite aux travaux de la neurobioimmunologie aux États-Unis.
Mmh.
Des recherches.
Ça consiste en quoi globalement? Si on peut décrire ça rapidement à nos auditeurs et auditrices, c'est... la méditation consiste en quoi? Comment
la méditation consiste
à méditation
oublier le morcellement. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains qui sont totalement morcelés. En même temps que nous sommes en train de manger, nous écoutons un morceau de musique, nous lisons un article et nous pensons à quelque chose d'autre. Et que ce morcellement fait que petit à petit, l'intensité énergétique de la conscience dans nos parties de nos corps est en train de se splitter et de se morceler. La méditation est destinée à re-ramener la conscience à soi, à re-ramener la conscience à un fait, à une structure unique. On dit dans les philosophies orientales que la maladie naît du morcellement et que la santé naît de l'unité. À travers le fait de calmer l'esprit, à travers le fait de l'amener sur une zone corporelle précise, à travers le fait de se reconstituer en redevenant un, on permet à cette conscience, qui est la clé majeure d'un système physique qui s'appelle le système immunitaire, nous nous redonnons les moyens de reconstituer de l'homéostasie et d'état de santé.
Et de nous défendre donc contre les diverses agressions possibles.
Absolument.
On a quelqu'un d'autre en ligne au 01 42 17 10 11. Bonjour, on vous écoute.
Allô ?
Oui, bonjour.
Ah, c'est à moi, oui. Oui. Bonjour, bonjour, docteur. J'aurais voulu vous demander un renseignement, s'il vous plaît. Oui. J'ai des problèmes de voix.
Oui.
C'est-à-dire que je peux rester 15 jours, 3 semaines normalement, et puis d'un seul coup, je peux, en dormant le soir, me lever le matin, j'ai plus de voix, je perds ma voix.
Oui.
Là, ça va faire plus d'un mois, ça c'est un record, parce que d'habitude, ça dure 10, 15 jours maximum, pas tout à fait 3 semaines.
Oui.
J'ai vu des grands professeurs, j'ai vu toutes sortes de médecins, d'otorino, et on me dit que j'ai rien, et pourtant... je perds ma voix sans raison. Alors je ne sais pas si...
Alors, on va laisser Michel Odoul, qui, je rappelle, n'est pas médecin, hein, donc, qui est un grand professionnel du Shiatsu, qui a créé cet Institut français du Shiatsu, et donc un grand spécialiste de la médecine chinoise. Mais voilà, je lui laisse répondre à perte de voix qui a forcément beaucoup de signification.
Voilà, déjà, la première chose, aller dans des situations comme celle-ci, de faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire d'aller valider, d'aller effectivement vérifier qu'il n'y a rien de pathologique, physique, de manifeste. Ensuite, bien entendu, la voix est un des premiers lieux dans lesquels on va avoir des expressions de tension ou de stress intérieur. Il y a sans doute des choses que vous avez de la difficulté à exprimer. Le fait que ça soit quelque chose qui émerge le matin, il faut savoir que la phase nocturne, c'est la phase où l'inconscient va exprimer les choses. Comme le conscient est débrayé, pendant la phase nocturne, nos structures et nos strates profondes vont commencer à mettre en place des mécanismes. C'est pour ça qu'on a souvent mal au dos en se levant le matin, qu'on a souvent un certain nombre de choses, on le constate le matin au réveil. Pour ce qui concerne la question de la voix, vous écrivez voix, V-O-I-X, il peut y avoir différents types d'orthographe pour ce terme-là. En tout cas, elle est représentative de notre capacité à exprimer, et à exprimer dans tous les sens. C'est pas simplement dans le fait de dire des mots, mais à exprimer soi-même. Les tensions de voix qui sont des voix ou des tensions aussi manifestes que les vôtres sont les signatures sans doute d'une difficulté à être, c'est-à-dire d'un espèce de constat dans lequel, sur le fond, on pense et on considère que l'on n'a pas suivi sa voix. C'est-à-dire que ce que l'on est ou ce que l'on fait est sans doute quelque chose qui est associé à du devoir, à de la nécessité, etc. Mais ne correspond pas obligatoirement aux grandes aspirations qui avaient été les nôtres. Et qu'une des manières avec lesquelles vous allez pouvoir vous aider, peut-être, c'est déjà de prendre une feuille de papier, de mettre ça par écrit, de laisser vos rêves s'exprimer sur des feuilles, et ensuite d'aller... peut-être dans des endroits où l'expression de soi est la plus manifeste, c'est-à-dire d'aller visiter des musées, des expositions, d'aller vous promener dans une forêt, ou éventuellement, c'est un conseil que je donne souvent aux gens qui ont ces tensions sur la voix, c'est d'aller s'inscrire dans une chorale. Parce que l'intérêt de la chorale, c'est que à la fois, on fait travailler la voix, on peut s'exprimer, mais en plus, même si c'est mon cas par exemple, on chante comme une casserole, quand on est au milieu d'une chorale, on se met à chanter bien. Et c'est quelque chose de formidable parce qu'il y a une vraie réconciliation avec soi et on se redonne ainsi le droit à exprimer ce que l'on est.
Ah, très bien.
Donc écoutez, en fait, en gros...
J'ai même vu une phoniatre, j'ai fait de la rééducation, j'ai vraiment tout essayé, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années que ça... que ça disparaît, que ça revient sans... Enfin, moi, je dis sans raison, mais on me dit c'est peut-être le stress, le truc. Bon, c'est vrai que j'ai un tempérament... Où je suis un petit peu stressée, mais rien de d'anormal, quoi.
Vous retenez beaucoup.
Ça fait partie de la vie, ça fait partie de... Et c'est ce qui m'intrigue, c'est parce qu'on me dit que c'est rien. et que en fait ça dure et ça vient d'un seul coup et ça repart hein, aussi.
Oui, mais quand on vous dit que c'est rien, c'est pas qu'on vous dit que c'est rien sur le fond, on vous dit qu'il n'y a pas une maladie. En revanche, sur le plan biomécanique, les cordes vocales, ce sont des muscles et donc comme tous les muscles en état de stress, ils peuvent se mettre en tension. Ce qui est troublant, c'est que ce soit spécifiquement ces muscles-là qui se mettent. Et ça signe ça, la problématique de l'expression. Donc, peut-être qu'il faut, dans un premier temps, vous savez, que vous fassiez un protocole d'expulsion, que moi, je conseille de faire, par exemple, d'aller vous promener dans une forêt. Vous trouvez un morceau de bois et vous allez vers un endroit où il y a une souche ou un arbre qui est couché au sol en travers. Et vous allez cogner dessus jusqu'à casser le morceau de bois en hurlant tout ce que vous avez envie d'hurler, parce que sans doute... Ça fait très long.
Je suis tout près de la forêt, là, je suis dans la forêt.
Alors n'hésitez pas à faire ça parce que.
Donc je vais essayer. Il faut voir qui, en fait. J'ai tellement vu, je vous dis, de spécialistes, je ne sais plus qui aller voir.
Je pense que ce que Michel Audoul vous dit, c'est qu'il faut aller chercher en vous quelque part, pas plus que d'aller chercher vers quelqu'un. C'est plutôt en vous que vous allez.
Sur le plan biomécanique, parce qu'il n'y a pas une seule manifestation physique qui n'a pas sa traduction dans le plan mécanique du corps. Moi, le conseil que je vous donnerai à nouveau, c'est le même que celui que je donnais tout à l'heure. Allez voir un ostéopathe ou allez voir un praticien shiatsu professionnel. Il y a sans doute des tensions au niveau des vertèbres cervicales, hein, et notamment au niveau de ce qu'on appelle le plexus cervical, qui est très en prise justement avec les nerfs faciaux qui vont vers les cordes vocales. Donc, il y a sans doute quelque chose qui a besoin d'être dénoué ou détendu là. Mais une grande partie du travail, c'est la capacité pour vous à vous redonner le droit à crier ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous pendant très très longtemps, parce que je crois qu'il y a un gros bagage.
Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup à vous pour votre question et votre témoignage.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup. C'est vrai que ce sont deux orientations différentes. Hein. On voit que le corps parle en quelque chose de l'ordre du signal que lance ce corps finalement.
Oui, et il le lance avec une précision très très troublante, c'est-à-dire que le corps est intelligent. On peut illustrer ça si vous voulez, parce que ça semble tout de suite un peu magique, ce genre de choses, etc. Mais regardons par exemple ce qui se passe avec quelqu'un qui est timide. Une personne qui est timide, que vous mettez en présence de quelqu'un qui l'impressionne, elle va se mettre à rougir. On voit donc que l'émotion timidité a fini par se traduire par une réalité physique. Hein. Donc, de l'émotionnel peut se traduire
d'ailleurs,
par du physique.
D'ailleurs, souvent, on dit que cette rougeur, c'est une protection de l'épiderme. Hein. C'est qu'on se met en...
Sauf une chose, c'est que cette rougeur, elle a été produite par la sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'adrénaline et d'une autre hormone qui s'appelle la noradrénaline, qui a produit la dilatation des vaisseaux qui a amené donc le sang. Sauf que le timide, il ne rougit ni de la plante des pieds ni du dos, mais que du visage. Or, l'adrénaline était présente dans tout le sang. Donc pourquoi n'a-t-elle agi qu'au niveau du visage ? Et c'est là où la noradrénaline, qui est ce qu'on appelle un électeur de lieu, intervient. Et c'est elle qui décide où l'adrénaline va agir. Et regardez l'intelligence du corps. Elle va agir dans la zone corporelle qui est représentative...
Là où il ne faut pas, en fait.
...de l'identité.
exactement. Mais qui donne...
Or, le timide a un problème sur son identité. Et donc le corps dit précisément de quoi il s'agit.
D'ailleurs, on va terminer par ça avec vous, Michel Audoul. Vous disiez tout à l'heure que votre livre a été traduit dans plusieurs langues, et notamment dans les langues orientales, comme le chinois, le japonais, etc. Alors que finalement, cette médecine chinoise, elle vient de là-bas.
Oui.
Je me posais la question de qu'est-ce que vous avez apporté, vous, français, Michel Audoul, à ces orientaux, dans leur propre médecine. Qu'est-ce qu'ils cherchent chez vous ?
Ils cherchent une chose extrêmement simple, c'est que dans ces cultures, dans les cultures orientales, on a un rapport au corps qui est extrêmement facile et simple, donc on peut prendre des bains nus ensemble. En revanche, on a une extrême pudeur sur l'expression de soi, ce qui est l'inverse de ce qui se passe chez nous, où on a une vraie pudeur sur le corps et on est capable de se mettre à nu et de discuter comme ça. Et donc, eux ne savent pas mettre les choses en mots. Ils ont un langage très exotique. Ils vont parler d'une attaque de feu sur la rate pour parler de telle structure émotionnelle. Ouais. Et ils me disent qu'à travers, notamment la mondialisation, entre guillemets, de la culture et l'ouverture à tous les autres pays du monde, les Orientaux ressentent aujourd'hui le besoin d'exprimer, de mettre des mots, M-O-T-S, sur leur mot M-A-U-X. Et que c'est cette clé que je leur amène, parce que cette clé vient s'inscrire dans leurs références culturelles, qui sont les méridiens d'acupuncture, les méridiens énergétiques, la connaissance de l'Orient, etc. Et j'en suis ravie, bien sûr.
Ah ben oui, c'est effectivement la mondialisation de la médecine chinoise et qui est arrivée chez nous en France et dans l'Occident.
Et qui revient chez elle, voilà.
Et qui retourne dans son pays d'origine grâce à vous. Donc je rappelle que vous êtes professionnel du shiatsu, que vous avez, vous présidez, j'imagine, cet institut français.
Oui, voilà, j'ai créé un institut français de formation.
Du shiatsu. Voilà. Et que vous avez écrit ce fameux best-seller depuis, la première édition, c'était il y a plus de 20 ans.
Oui.
Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, chez Albin Michel. Voilà un beau cadeau à faire en cette fin d'année, en cette fête de Hanouka et fête de Noël, pourquoi pas. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, cher Michel Oudou, d'être venu sur RCJ. Je vous souhaite à toutes et à tous, bien sûr, une très bonne santé et une très belle fin de semaine.